You're with SBS Radio.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SBS. Aujourd'hui, dans nos studios de Sydney, nous avons la chance de recevoir parmi les plus belles voix du monde le couple canado-australien composé de Nicole Carr, la chanteuse d'opéra australienne, et donc son compagnon à la scène comme à la ville, le Canadien Étienne Dupuis. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et donc, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la série de spectacles que vous avez fait au cours du mois d'août en Australie, avec une première date prévue le 3 août à Sydney.
Oui.
C'est juste.
Alors, il me semble que ce spectacle, c'est une série d'aria, en fait, des chansons assez romantiques et plutôt intimistes.
Oui.
À quoi on peut s'attendre exactement? Quel type d'œuvre allez-vous interpréter? Et comment ça va se dérouler, ce récital?
Quand on a commencé de penser qu'est-ce qu'on veut faire dans la série pour le récital, on pensait les mélodies françaises. Parce que pour moi, c'est cool parce qu'on habite à Paris maintenant, on a un petit côté de français.
Comme vous pouvez l'entendre, en plus, le français de Nicole est horrible.
Ah oui, c'est vrai. J'ai non, besoin de...
Son français est extraordinaire. Elle a appris le français à une vitesse incroyable. Et donc, de faire la mélodie française, en plus, je pense que ça rentrait dans le...
Oui, mais c'est rare pour nous d'avoir l'opportunité de faire les choses comme ça. Parce que normalement, pour nous, c'est l'opéra. Et un récital, quand nous, on peut choisir les chansons, les airs, c'était un plaisir. Et comme ça, on a mis un peu du Parc, du Massenet, les...
Gounod,
oui.
Il ne faut pas mentir, il y aura peut-être un petit peu d'opéra aussi.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est cool, on a trouvé beaucoup de chansons françaises dans le style espagnol aussi. C'est très intéressant pour nous de faire. Et comme ça, on a deux parties. La première, c'est vraiment les mélodies françaises. Et la deuxième partie, c'est plus que les mélodies françaises qu'ils ont dans le style.
Des chansons qui touchent l'Espagne.
Oui.
Alors, on a même une dernière pièce de première partie assez intéressante. C'est que j'ai eu la chance, il y a quelques années, de faire une création d'un opéra qui s'appelle Les Feluettes, basé sur la pièce de théâtre incroyable de Michel-Marc Bouchard. Et le compositeur se trouve à être un Américain qui vit en Australie depuis je ne sais pas combien d'années, c'est, il vit depuis très très longtemps. Pour moi, ouais, presque plus que 20 ans, mais je pense que je ne sais plus. Il s'appelle Kevin March. Et donc, j'ai appelé Kevin et on a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire une pièce, une composition pour soprano et baryton? Et donc, Kevin nous a soumis un texte, une musique qui sont parfaites parce que ça fait un joli pont entre le français et l'Espagne. Mm-hmm. Entre la France et l'Espagne. Entre le français et l'espagnol. On laisse le suspense. Mais donc, ça va être ici. On va faire une création mondiale en plus.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez pris... Enfin, la différence avec un opéra, c'est que là, vous avez pu vraiment choisir les chansons que vous souhaitez interpréter. Mais justement, est-ce que ça n'a pas été un peu difficile de... Bah de resserrer une sélection? On peut pas en chanter 50 dans la soirée, j'imagine. Je sais que moi, quand je fais... Enfin, plutôt à l'époque où il n'y avait pas de MP3 et que je me faisais des compiles pour la voiture, etc. C'était difficile de tenir sur 74 minutes. J'imagine que c'est un peu pareil pour vous.
Oui, on avait une grande liste. Mais finalement, c'était pas si difficile parce qu'on a choisi un thème et comme ça, c'était plus facile de trouver les meilleures chansons pour le thème.
Des fois, le thème, c'est ce qui est le plus difficile à trouver.
Oui.
Après, c'est vrai que notre thème, il est un peu loose, il est un peu flou, hein? C'est de dire mélodie française, puis ensuite des chansons qui touchent à l'Espagne. On a réalisé assez vite que ça recouvre beaucoup, beaucoup de répertoire. Donc, c'est vrai que notre bassin était encore très large.
Oui. Mais on a resté plus avec les compositeurs qui ont fait beaucoup de l'opéra aussi, comme Massenet, comme Gounod. Et comme ça, on a choisi les chansons. Pour cette raison aussi.
Voilà, c'est ça. Ce qu'elle veut dire, c'est que le compositeur est peut-être plus connu comme compositeur d'opéra, mais ils ont aussi composé des mélodies. Et donc, c'est ces mélodies-là qu'on va interpréter aussi.
Alors donc, cette série de concerts que vous préparez, ça va être un récital. En gros, sur scène, ce sera vous deux et un pianiste.
Oui.
Mais vous êtes habitué à l'opéra, où on a, pour le coup, une distribution beaucoup plus large, des danseurs, des musiciens, des costumes, un chef d'orchestre, etc. C'est très différent, j'imagine, de préparer deux représentations aussi éloignées les unes des autres. Est-ce que ça a été difficile?
Oui. Oui, parce que c'est pour nous à décider toutes les choses. Qu'est-ce qu'on veut porter comme les robes ou les vêtements? Qu'est-ce qu'on veut faire pour les entrées, les sorties, pour le thème, avec le pianiste.
Qu'on va nommer d'ailleurs, notre ami Jason...
Oui, Jason Gillam.
Gillam,
c'est ça. Oui, il est très connu ici en Australie. Il est très bien pianiste.
C'est pas juste un pianiste comme ça qu'on a pris sur la rue. Non. Mais non, moi, ce que je trouve, Nicolas a raison, c'est que c'est nous qu'on doit décider de tout. Mais en même temps, ça nous donne une grande liberté. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'idée de pouvoir, je sais pas, à la dernière seconde, il arrive un truc, on perd un morceau de vêtement ou un truc, on change, tu vois, où il y a une pièce qu'on réalise que, je sais pas, ce jour-là où ça marche plus, ou c'est pas nécessairement un bon choix, ou l'ordre des pièces n'est pas parfait, mais on peut faire des petits ajustements comme ça quand c'est nous qui sommes en contrôle, tandis qu'à l'opéra, on a rarement le contrôle sur autre chose que l'émission vocale. Ouais. Et puis, après, le jeu d'acteur. Voilà, c'est tout.
Vous avez tous les deux chanté dans les endroits les plus prestigieux du monde, l'Opéra Garnier à Paris, celui de New York, dont le nom tout de suite m'échappe. Pour vous, en particulier Nicole, qui est australienne, qu'est-ce que ça vous fait de revenir chanter ici, chez vous?
C'est toujours un plaisir. J'ai ma famille ici, j'ai mes amis ici, j'ai fait l'atelier ici à Sydney, j'ai habité ici pour 5 ans. C'est vraiment un grand plaisir parce que j'ai peut-être pas si petit public, mais j'ai les gens qui me connaissent ici.
Me connaissent.
Connaissent, merci. Et mon français.
Le connard. Non, c'est pas ça. C'est pas
non, mais c'est parfait. Et cette fois, on peut chanter dans les autres villes aussi. C'est pas toujours... Parce que si je fais un opéra...
Non, je ris parce que... Mais je ris parce que Nicole est super contente parce que ça doit faire 5 ou 6 fois que je viens en Australie
avec
elle.
Ah oui, pour Étienne.
Et à chaque fois, on a des... Ben, c'est souvent Nicole travaille, ou c'est arrivé une fois que je travaille avec elle, mais on est toujours pris à Sydney. Et donc, on a été un peu à Melbourne, mais à peine. Et puis, je vois rien d'autre de l'Australie. Je me retrouve tout le temps au centre-ville de Sydney, dans une chambre d'hôtel, et je vois rien d'autre.
Oui, mais cette fois, je peux montrer Brisbane à Étienne, Canberra, Melbourne un peu plus.
Puis, on va même aller à Hobart. Là, ça, c'est pas dans le même récital, dans la même série récital, mais on va aller en Tasmanie.
Oui, oui. Et on peut montrer Australie un peu à nos fils, parce qu'il a 2 ans, 4 mois maintenant, il est un peu plus vieux. On peut montrer nos fils à ma famille, à mes amis. Non, nos familles, nos amis.
Notre famille.
Oui.
Nos...
Ça
ne
pas.
Oui, oui. Il va pas s'en rappeler plus tard, mais il va avoir des belles photos pour le prouver.
Oui, oui.
Et alors, pour cette série de spectacles, vous vivez maintenant à Paris, justement, et les chansons sont issues beaucoup de compositeurs français, et puis il y a un thème un peu sur l'Espagne. Est-ce que vous allez faire découvrir cet univers à vos compatriotes, partager un peu avec eux votre expérience personnelle de la France, de Paris, sur scène?
Mais oui, c'est nécessaire. C'est peut-être un part de le monde que les Australiens ne connaissent pas beaucoup. Et aussi, le monde de chansons, le monde d'une soirée de restal, c'est pas évident ici en Australie. On est chanceux d'avoir le maison d'opéra, et comme ça, on a beaucoup d'opéras en Australie. Mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup de restal dans le sens, dans les grandes salles de les villes différentes en Australie. Et pour moi, c'est un plaisir de porter les choses de France ici.
Vous vivez maintenant tous les deux à Paris, une ville qui vous est étrangère à tous les deux, puisque Étienne, vous êtes canadien. Comment ça se passe? Ce qu'on en entend quand on est très loin, on peut en avoir une image un peu déformée par les informations, la télévision. On sait que ces derniers mois, la France s'est un peu agitée, les gilets jaunes, tout ça.
Oui.
Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous le ressentez? Et on sait que, comme beaucoup de grandes villes, mais peut-être Paris en particulier, c'est difficile de s'installer dans une ville comme ça. Les Parisiens ne sont pas toujours très accueillants. Ça se passe comment pour vous?
Non, ça c'est vrai, mais on est chanceux d'être...
Combien de temps dure l'émission?
Non, mais on est chanceux d'être chanteur lyrique, parce que si on parle avec les gens à Paris, le moment qu'on dit qu'est-ce qu'on fait dans nos vies, ils disent « Ah, oh, mais vous êtes chanceux, vous chantez à Garnier. Oh, mais quel plaisir, quel plaisir. Et ça, c'est les différences pour nous en France, je trouve, parce qu'il y a une tradition de l'opéra. Et ils aiment beaucoup la musique classique.
Alors, je vais vous poser une question aussi en tant qu'ancien Parisien, parce qu'il y a des enfin, c'est pas des anecdotes, mais des choses peu connues sur l'Opéra Garnier qui, moi, m'ont toujours fait un peu rêver, que j'ai pas eu l'occasion de voir de moi-même. Vous qui avez chanté, du coup, était à l'intérieur des murs, etc.
C'est pas moi le fantôme d'opéra, je vous dis, c'est pas moi.
Alors, ça, je m'en doutais. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de voir cette fameuse... d'ailleurs, je ne sais plus si c'est une rivière ou un canal souterrain qui passe sous l'Opéra.
Ouais.
Oui, on l'a vu. Oui.
On a été nourrir les poissons.
Oui, c'est vrai.
Waouh. Mais vous n'avez pas vu le fantôme, donc?
Non, on a cherché.
C'est impressionnant parce que quand on descend dans le sous-sol de l'opéra...
C'est immense.
C'est ça.
C'est immense.
Des dédales, hein, c'est un labyrinthe, c'est labyrinthique, oui. C'est énorme, déjà. Et en fait, ce qu'on ignore, c'est qu'en dessous même, parce que là où on peut se marcher, juste en dessous, il y a un autre étage qui est complètement inondé. Mais cet étage, quand il est vidé, on peut y circuler et c'est des voûtes et ça a été aménagé pour que les gens puissent y marcher en fait. Mais c'est qu'il y avait un gros problème d'infiltration d'eau, parce que c'est marécageux là où ils ont construit Garnier. Et donc ils ont trouvé 1000 solutions, il n'y en a aucune qui fonctionnait, il y avait toujours de l'eau qui revenait. Et selon l'histoire en fait, c'est qu'il y aurait eu un inspecteur qui devait se présenter pour voir. Et donc pour pas que ça paraisse qu'il y avait une infiltration d'eau, ils ont inondé. Et en inondant, ils ont réalisé que ça gardait l'eau à l'extérieur. Et donc, ils ont sacrifié cet étage. Il est complètement sous l'eau 25 années d'affilée avant d'être vidé et nettoyé. Pour un autre 25 ans, ensuite, il est englouti. Et cet étage n'est pas utilisé du tout. Il protège, il empêche l'eau de s'infiltrer. Voilà, pour la légende, c'est ça.
Eh ben, merci pour ces informations. Je pense qu'en anglais, c'est pareil, mais en français, on dit qu'il vaut mieux pas mélanger travail et plaisir. Et du coup, je voulais savoir pour vous, comment ça se passe?
Pour moi, c'est fantastique parce que avec Étienne, il peut me dire si... Parce qu'il reste toujours dans la salle si je suis sur scène et pas lui. Et il peut dire, hey Nicole, à ce moment-là, tu as chanté, c'était... peut-être pas si ton meilleur moment, ou tu peux faire ça, ou as-tu pensé de tourner un peu vers moi ou vers les autres?
Le public,
ouais. Oui. Et pour moi, c'est très cool parce que j'ai les autres oreilles dans la salle, sur scène, j'ai les autres yeux qui peuvent me voir. Et pour nous, on est très confortables à travailler ensemble.
Sur scène, on peut improviser,
scène, oui.
On peut se faire des petits gags, on a eu l'occasion de le faire il n'y a pas très longtemps.
Oui. Mais j'espère qu'on reste professionnel, c'est juste ça.
Bien sûr. Non, je suis sûr que oui.
Oui.
Je pense pas que le public le remarque, mais...
Le public, non.
Mais nous, pour nous, c'est ça, c'est qu'on se fait une confiance aveugle. Oui. Donc, si un ou deux part dans une direction... Ben, l'autre, il fait confiance, puis il dit sûrement qu'il y a un but derrière, et puis finalement, oui, c'est jamais gratuit. On sait très bien l'un et l'autre qu'est-ce que l'autre vaut sur scène.
Oui. Donc, durant le spectacle, si par exemple j'ai chanté mon air, j'étais pas si confortable, peut-être je peux parler avec Étienne dans l'entracte, je peux dire mais c'était bien passé ou non, qu'est-ce que tu as pensé? Et on peut discuter un peu.
Non, c'est vrai, il faut mentir. Après le spectacle, on peut dire la vérité, mais pendant le spectacle, on ment.
On a appris ça.
Ça, on l'a appris. Je l'ai appris à la dure, ça. J'ai fait un commentaire une fois à la pause dans un spectacle et oh, que je l'ai regretté.
Ben justement, le fait que vous connaissiez intimement, est-ce que vous avez l'impression que sur scène, ça crée une meilleure symbiose entre vous deux que si vous chantiez avec partenaires professionnels, enfin purement professionnels pour le coup.
Surtout, c'est qu'elle est immédiate.
Oui.
S'il n'y a pas de temps d'attente, c'est la symbiose est là tout de suite, pouf.
Oui, oui. J'ai confiance. Je peux faire qu'est-ce que je veux et Étienne, il me suivre ou l'inverse.
Et vice-versa.
Oui.
Est-ce que vous écoutez un type de musique en particulier avant de monter sur scène pour vous mettre... dans le mood, quoi, dans l'ambiance, est-ce que bien, vous avez un petit rituel, en gros, pour rentrer dans le personnage
Ça dépend de le personnage, je pense. Mais non, non, mais c'est vrai. Mais pour moi, j'aime beaucoup... c'est fou. Mais j'aime beaucoup la chanson « Happy » de Pharrell Williams. Et normalement, je le mets juste avant que je rentre sur scène.
Mais qu'est-ce que tu faisais avant que la chanson sorte?
Rien.
Tu n'étais juste pas heureuse.
Non, c'est vrai. Mais oui,
non, oui. Non, t'écoutes Happy,
pas contente,
t'es heureuse.
Ah, oui.
Et ça vous met un coup de boost pour...
Mais oui, oui. Ouais. Je peux danser dans ma loge.
C'est vrai. Oui, oui, ça oui.
Et vous, Étienne, vous avez une...
Moi, je suis plus autodidacte. Donc, moi, je m'assois au piano et je me joue moi-même des chansons. Alors, j'aime bien chanter à tue-tête ces temps-ci. J'ai deux chansons que j'aime beaucoup. C'est une chanson de Rufus Wainwright qui s'appelle « This Love Affair » et une chanson de Keen qui s'appelle « Hamburg Song ». Ça, c'est deux chansons que je chante à tue-tête et qui m'échauffent la voix et me... Je sais pas, ça, comme vous disiez, ça fait sortir le méchant, ça prépare, ça booste, ça, peu importe, ça met dans une espèce de zone de, oui. De performance. Voilà.
Mais il fait pas beaucoup de vocalises. Pour chauffer la voix, il chante vraiment les chansons contemporaines.
C'est une vieille habitude. J'avais 25 ans, j'avais un prof de chant. On pouvait passer 45 minutes à faire des exercices vocaux, tu sais, des vi, mi, ah, vi, en tout cas, sur toute la gamme au complet. Et puis, il n'y arrivait jamais à me faire ce qu'il voulait. Il cherchait des trucs, il me mettait une carte d'affaires devant la bouche, mon doigt sur les joues. Il essayait tout. Bloque les oreilles, débloque les oreilles, rien. Et puis là, il me regardait. Quelques leçons, au bout de 10 minutes, il disait « OK, arrête, là, chante une chanson. » Parce que là, je me mettais à chanter « Bella, si come l'angelo. » Puis là, tout de suite, il faisait « Ah, c'est ça, c'est parfait. C'est bon. » Là, il arrivait à trouver ce qu'il voulait sur le placement des voyelles et tout ça. Donc, je suis archi nul pour me chauffer la voix. Mais ben, je veux dire, je l'ai appris maintenant, là, mais j'étais vraiment, vraiment nul. Et puis, donc, Nicolas a raison, je préfère chanter des chansons populaires. Ça me place mieux la voix.
Oui.
Parce que ça vous arrive aussi, comme Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde, de chanter comme ça, un petit refrain dans votre tête ou sous la douche? Et si oui, qu'est-ce que vous chantez?
Je chante pas beaucoup dans la douche.
Non,
c'est à cause de Noah, mon fils, normalement, parce que le moment que je prends ma douche, il dort, normalement.
Ça, c'est vrai. Mais les fois où tu chantes, c'est toujours, c'est absolument sublime. Nicole, elle a une voix. Tiens, on va répondre un pour l'autre, hein, on fait un concert.
Ok.
Je vais répondre pour Nicole. Quand elle chante sous la douche, c'est souvent une chanson, en fait, c'est des chansons que je connais pas, moi. Puis c'est des chansons, ça peut venir beaucoup, elle aime beaucoup, beaucoup le répertoire de la comédie musicale, un peu plus vieillot, un peu plus orchestral, pas la comédie musicale nécessairement avec des bands de rock,
comme
donc les Stephen Sondheim et compagnie. Et donc souvent, elle va sortir une petite balade comme ça, un truc, c'est super beau, c'est assez intime même, on sent qu'elle comme, elle rentre dans sa bulle, puis on a plus envie de la déranger, tu vois, mais on a juste le goût d'écouter, on entend l'eau couler, puis on entend cette voix. La voix de Nicole qui chante jazz ou qui chante comédie musicale, c'est une autre voix. Et c'est lié à quelque chose de plus sentimental, je dirais. C'est d'une beauté à faire pleurer les pierres, comme on dit en français.
C'est
gentil. Ben, c'est vrai.
Merci.
Et donc, Nicole, qu'est-ce qu'on écoute dans la bulle d'Étienne?
Ah, je suis le deuxième, non!
T'es pas obligé, dis la vérité. T'as pas besoin de me faire des compliments.
Non, mais tu chantes très bien. Ah, ça dépend. Pour Étienne, quelquefois, c'est l'opéra, parce qu'il chauffe sa voix dans la douche. C'est peut-être Don Giovanni. Ce matin, c'était Manon, c'était l'air de ténor. Il aime beaucoup les airs de ténor dans l'opéra. Et quelquefois, c'est Don José à Carmen, c'est Des Grieux à Manon. Je pense que dans une autre vie, il était un ténor.
Mais, j'étais plus riche à l'époque.
Peut-être. Mais non, mais c'est très beau. C'est juste, pour Noah, c'est fort. Parce que dans les salles de bain, si tu chantes l'opéra, c'est résonnant.
Oui.
Mais c'est très beau.
Eh bien, merci beaucoup. Pour terminer, je vais vous demander quelques petits détails pratiques. Donc, on a dit tout à l'heure que votre premier récital, c'est à Sydney le 3 août. Mais vous avez d'autres dates prévues au cours du mois un peu partout en Australie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où on pourra vous écouter?
Oui, on chante à Melbourne le 7 août. Le 9 août, c'est à Canberra. Et le 11, c'est à Brisbane. On a 4 spectacles. C'est cool dans 4 autres villes.
Eh bien, on a hâte d'aller voir ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici.
Merci à vous.
Et est-ce que vous voudriez nous partager avec nous un petit ersatz de votre puissance vocale?
La-ti darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi non è lontano, partiam ben mio da qui.
Vorrei e non vorrei, mi tremo un poco il cor. Felice ver sarei, ma può burlarmi ancor, ma può burlarmi ancor.
Eh bien, pour citer Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. Merci Étienne et merci Nicole. On vous souhaite d'excellents spectacles en Australie et on a hâte de voir ça. Merci beaucoup.
Merci, c'est gentil.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.